Le journal, bonjour Bernadette Chamonaz.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Les crèmes solaires, indispensables pour la santé, toxiques pour l'environnement, désastre écologique même pour les océans, alertent les scientifiques. Explication détaillée dès le début de ce journal. 14 juillet entre festivités à Toulouse, concerts, feux d'artifice, nous y serons. Et nuit agitée, voitures brûlées à Lyon et Marseille, après la qualification de l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À Paris, 14 juillet, perturbé aussi par les gilets jaunes de retour sur les Champs-Élysées, alors que le montant global de la facture pour les commerçants est présenté cette semaine. Gaza, débordé par les déchets, met en service son premier grand centre d'enfouissement. 15 juillet 2018, la France exulte. Retour sur le jour où les Bleus ont accroché une deuxième étoile à leur maillot.
Dans un quart d'heure, nous recevons le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Crème solaire, l'alerte des océanologues.
Mange-t-on des crevettes rissolées à la crème solaire? Eh bien oui, car les crèmes solaires qui sont devenues indispensables pour la santé de notre peau, ces écrans que l'on étale avant de se baigner, sont une catastrophe pour les océans. Une courte baignade d'un quart d'heure suffit pour que les molécules du produit se diffusent dans l'eau et polluent l'ensemble de la chaîne alimentaire. Célia Kiré.
Oxybenzone, octocrylène, ces molécules au nom barbare se cachent dans nos crèmes solaires, dans les filtres anti-UV. Or, ces molécules sont toxiques pour les organismes marins. Elles attaquent les coraux. Elles ont été interdites à Hawaï et dans un archipel du Pacifique. Mais elles sont toujours bien présentes dans de nombreuses crèmes et elles se fixent sur le sable ou les coquillages. Philippe Le Baron est professeur de microbiologie au laboratoire océanologique de Bagnols-sur-Mer.
Ce sont vraiment des molécules qui sont dangereuses pour l'ensemble des organismes vivants, y compris l'homme. Le risque, c'est qu'on transmette à l'homme un certain nombre de ces molécules, tout simplement par la chaîne alimentaire et la consommation d'un certain nombre de produits. Alors ça peut se faire au niveau des crevettes, par exemple, qui sont consommées par l'homme, ça peut se faire au niveau des moules, des huîtres, des poissons. Tous les organismes consommés par l'homme sont susceptibles d'être impactés.
Et en effet, ces filtres se retrouvent en quantité assez importante dans les eaux de baignade. Jérôme Labille, chercheur au CNRS, l'a observé sur une plage de Marseille.
On a réalisé des campagnes de terrain, justement, pour aller échantillonner des eaux de plage et à la fois compter le nombre d'usagers sur la plage et en même temps, en face, analyser l'eau de leur bain. 20 à 30% des filtres UV qui sont consommés sur la plage sont retrouvés en suspension dans l'eau ou flottant à la surface.
Et même si ces recherches sont à affiner, certains spécialistes attendent déjà des pouvoirs publics une interdiction de certains composés pour les remplacer par d'autres filtres moins nocifs pour l'environnement.
Et c'est en effet la seule solution possible, car abandonner les écrans solaires serait, on le sait, aussi dangereux pour notre santé.
Un 14 juillet mouvementé, Bernadette.
Alors c'est moins le 14 juillet que la qualification hier soir de l'Algérie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, une première pour le pays, qui a entraîné ce qu'on appellera des prolongations. Les autorités craignaient la concordance avec les feux d'artifice. À Paris, le dispositif de sécurité a réussi à contenir les débordements. Des heurts plus violents à Marseille, à Lyon, voitures brûlées, feux de poubelle, à Avignon aussi, à Montpellier. Selon un dernier bilan qui pourrait évoluer du ministère de l'Intérieur, 250 interpellations hors Paris. Pour une fête bon enfant, c'est à Toulouse qu'il fallait être, au milieu de 300 000 spectateurs qui ont eu droit aux feux d'artifice et aux concerts, Nina Valette.
Oui, l'immense scène est installée à quelques mètres seulement de la Garonne. Et qui de mieux pour mettre l'ambiance dans cette ville que les deux enfants du pays.
On préférera toujours Toulouse pour deux raisons. La première, c'est qu'on habite là-bas, donc je sors de la douche, ça va, c'est tranquille. La deuxième, c'est qu'on a le meilleur public de France chez nous à la maison.
Et le meilleur public, forcément, ça connaît les paroles par cœur, comme Chloé, 6 ans, perché sur les épaules de maman.
C'est dommage, c'était la dernière fois.
Ou Laurent et Lisa, la petite trentaine.
Allez, je chante trop beau. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit, assez dommage. Assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Les artistes sont nombreux à se succéder. Alice et Cassandra, deux étudiantes, réalisent la chance qu'elles ont.
C'est incroyable. Où est-ce qu'il y a une place ailleurs en France où 300 000 personnes pourraient rentrer d'un coup?
Mais les deux Toulousaines sont forcément là pour le clou du spectacle, le feu d'artifice. Et là aussi, c'est en musique.
Trop bien.
À Toulouse, Nina Valette pour France Inter.
concert aussi à Paris avec l'orchestre de Radio France. Hier soir, vous avez pu l'entendre en direct sur France Inter. Dans la capitale, la journée du 14 juillet avait été quelque peu chahutée. Les gilets jaunes étaient de retour sur les Champs-Élysées où ils étaient parvenus discrètement, sans porter leur chasuble fluo. Emmanuel Macron a été sifflé. Il y a eu des heurts avec les forces de l'ordre. 175 interpellations et des figures du mouvement quelques heures en garde à vue.
Et c'est justement cette semaine que la facture gilet jaune sera rendue publique.
Combien ont coûté aux commerçants les dégradations commises au cours de ces 9 mois de contestation? Il y a les dégâts visibles et ceux qui font leur œuvre à plus long terme, sur le chiffre d'affaires notamment. 3 députés de la majorité et de l'opposition sillonnent depuis 2 mois la France. Ils ont rencontré des centaines de commerçants, de chefs d'entreprise et leur rapport sera en effet rendu public mercredi. Laurent Kramer.
Il y a tout d'abord les dégâts les plus visibles constatés par chacun. Radars, vitrines, bâtiments de collectivités endommagés, perte de chiffre d'affaires dans l'hôtellerie, les petites entreprises et le commerce. Avec ce premier constat des députés, la facture globale devrait dépasser les 4 milliards d'euros. Mais les parlementaires s'inquiètent également des défaillances de commerce et d'entreprises qui risquent d'intervenir dans les mois qui viennent. La pression sur leur trésorerie est énorme, soulignent les députés. Un chiffre d'affaires perdu pendant plus de 34 semaines ne se rattrape jamais. Les habitudes de fréquentation des centres-villes se sont également transformées avec la crise des gilets jaunes. Les députés insistent, il ne faut surtout pas faire comme d'habitude un saupoudrage avec un fonds d'indemnisation, mais bien du cas par cas chirurgical avec des exonérations de charges, mesures de trésorerie pour accompagner les entreprises en grande difficulté.
Et puis dans la Drôme, au moins 50 000 déclarations de sinistres ont été déposées un mois après l'épisode de grêle qui a frappé le département. À l'étranger, nouvelle violence à Hong Kong entre policiers et manifestants, jets de projectiles contre gaz au poivre, coups de matraque, scène de chaos même, rarissime à Hong Kong, dans un centre commercial avec des boutiques de luxe. Un jour important à Gaza, l'enclave palestinienne met en service aujourd'hui un important centre d'enfouissement de déchets. Il va faire passer la moitié de la bande aux normes internationales en matière de traitement de déchets. Pour en arriver là, il a fallu dépasser les contraintes du blocus israélien, les querelles politiques aussi entre Palestiniens. Mais l'enjeu est énorme. Étienne Monin, les décharges sont saturées et l'environnement est menacé.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Gaza, le ramassage des ordures reste artisanal. Il y a par exemple 63 carrioles tirées par des ânes pour la ville de Ran Younes. C'est un attelage municipal. Il ramasse les sacs de déchets déposés sur le bord de la route et il l'entasse dans des décharges qui sont saturées, souvent sauvages et qui menacent l'environnement, explique Ahmed Ilis, spécialisé dans la préservation de l'environnement.
Ces écoulements qui ne sont pas traités s'échappent de la décharge parce que les déchets débordent des sites. Ça va directement dans le sol, qui est une zone agricole. Cela pollue le sol et cela va ensuite directement dans la nappe phréatique, ce qui augmente la contamination ou la pollution.
Le nouveau centre d'enfouissement permet la fermeture de 2 décharges. Il va permettre de collecter et de stocker les déchets sur une dizaine d'années. Ça n'est pas une révolution, mais c'est un bond en avant, dit le directeur du syndicat intercommunal Ali Barro.
La situation a complètement changé. Elle est passée de 0 à 360 degrés. C'est ça. On a des infrastructures et c'est prêt. On a le site d'enfouissement, on a le transport, on a des routes d'accès en bonne condition.
Le centre d'enfouissement est grand comme 12 terrains de football. Il coûte autour de 20 millions d'euros. Il est financé pour moitié par l'Agence française de développement. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Nous croyons au dialogue, nous sommes prêts à négocier si les sanctions sont levées. C'est ce qu'assure le président iranien Hassan Rouhani, réplique du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Je suis sceptique. Paris, Londres et Berlin appellent en tous les cas Téhéran et Washington à calmer le jeu, à apaiser les tensions. Les 3 capitales se disent profondément troublées par la détérioration de la sécurité dans la région. En sport, Julian Alaphilippe, toujours en jaune au départ ce matin de la 10e étape du Tour de France, ce sera à Saint-Flour. Mais l'aura-t-il encore ce soir, à l'arrivée à Albi? Son compatriote, ami, mais néanmoins concurrent, Thibaut Pinot, le voit bien en jaune encore au moins une semaine. semaine. Julien Alaphilippe est, lui, beaucoup plus prudent, très raisonnable même, au micro de Fanny Lechevestrier.
Mes ambitions pour le classement général, avant d'arriver sur le tour, elles n'existaient pas. Donc, elles ne sont pas tombées du ciel parce que j'ai le maillot jaune. Ça ne va pas changer grand-chose, même si c'est vrai qu'on peut rêver un peu en pensant que je peux le garder le plus loin possible et de repousser mes limites, de me tester. Mais là, j'ai beaucoup, beaucoup donné comparé aux autres grands leaders. Voilà, il ne faut pas comparer le fait de porter le maillot jaune la première semaine et le ramener à Paris dans deux semaines.
Julien Alaphilippe s'interdit de rêver, mais nous, il y a un an en France, on commençait notre rêve, un nouveau rêve, le 15 juillet 2018. La France sautait de joie, championne du monde de football, deuxième étoile sur le maillot des Bleus, au rayon des émotions fortes. Cette victoire est évidemment au panthéon des supporters, a fortiori Béatrice Duguay, pour ceux qui ont été de l'aventure en Russie.
Les téléphones mobiles gardent en mémoire la folie du moment. Des photos, des petites vidéos, surtout dans le cop tricolore du stade Loujniki. Des supporters qui exultent, en pleurs, souvenirs de gros sanglots pour Hervé Mougin, des irrésistibles français.
Ah oui, j'ai pleuré avant le match de tension, j'ai pleuré pendant le match parce que je voyais qu'on allait gagner, j'ai craqué quand j'étais sûr qu'on était champion du monde. Et à chaque fois que j'y repense, j'ai la larme à l'œil. Donc le 15 juillet 2018 sera gravé à vie dans mes souvenirs.
Souvenir aussi d'avoir embrassé à peu près n'importe qui autour, les copains bien sûr, et puis de parfaits inconnus. Ilan Kukrovic a lui bien profité de la fin de la rencontre.
C'était peut-être limite au moment du quatrième but des Bleus, où là on s'est dit, ah, ça y est, c'est bon, on peut plus trop la perdre maintenant. Dès ce moment-là, en fait, ça commençait vraiment à être la fête dans les tribunes.
Le ticket du match dort au chaud dans sa table de nuit depuis, d'autant qu'il est aussi, après tout, presque champion du monde.
On m'a quand même plusieurs fois dit waouh, bravo, bien joué, alors que finalement non, moi j'ai pas vraiment l'impression d'avoir été sur le terrain, mais c'est quand même assez sympa.
L'armichette encore pour Jean-Pierre Lorjou en Russie avec des amis pour le premier tour, mais qui a vécu la finale chez lui dans un bistrot de Locminé en Bretagne.
C'était des larmes de bonheur, mais on sait pas des fois si c'était des larmes pour finir un peu de houblon ou bien parce qu'on a quand même arrosé ça aussi. Hein. On était obligés.
On est...
Voilà, on avait pleuré nous aussi. Hein,
mais oui, Frédéric, on était là, Bernadette, il y a un an tout juste.
Puis décidément, le sport qui nous offre encore un moment épique, on ne s'en lasse pas. Cette finale de géant hier à Wimbledon, Federer Djokovic, 4h55 minutes, 12 jeux partout, dernier set, tie-break du jamais vu. Victoire de Djokovic, on vous raconte tout dans le journal de 8h.
Incroyable match, c'était le journal de Bernadette Chamonaz.